Excusez-moi, vous savez, comme celle de Vayikra est consacrée essentiellement au Korbanot, et la grande différence entre Vayikra et Tsav, c'est que Tsav est beaucoup plus dans le détail que Vayikra. Et on a dans Parshat Tsav plusieurs fois l'expression Zot Torat Ha, Zot Torat Ha'Olah, etc. Et en quelque sorte, une introduction au détail de chaque chose, de chaque type de korban. On va revenir là-dessus. D'abord, la première chose dont on parle ici, après avoir dit Zot Torah Ha'olah, Hi Ha'olah al-Mogda, al-Mizbeach kol ha'layla ad-boker, ve'esh ha'Mizbeach tukad bo. On parle de ce feu du Mizbeach qui brûle donc en permanence. Alors, c'est une mitzvah de faire brûler ce feu en permanence. Et dans le chinuch, Sefer HaChinuch, qui commente les mitzvot, comme vous savez, il écrit « Liot esh ala mizbeach b'chol yom tamid » il doit y avoir chaque jour permanence, un feu sur le misbéar, sur l'autel. Donc, c'est le foyer sur lequel on va faire griller ce qui est à griller. Shenemar esh tamid tukad ala misbéar lo tichbe. C'est un pasouk un peu plus loin. Uba apirush shel tamid. Et qu'est-ce que c'est que ce mot tamid? Qu'est-ce qu'il veut? Tamid, ça veut dire tout le temps, toujours. Mais par exemple, vous vous souvenez que on en a déjà parlé, il y a une notion qui s'appelle Korban Tamid. Et qu'est-ce que c'est le Korban Tamid? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Tamid? Tamid, ça veut dire, là, en l'occurrence, dans le Korban Tamid, c'est que il a lieu tous les jours et il a même lieu deux fois par jour, le matin et en fin d'après-midi. Et ça s'appelle Tamid. Tamid, ça ne veut pas dire obligatoirement, sans aucun, dans une continuité absolue. Quelque chose qui revient tous les jours s'appelle tamid, même si ça ne dure pas toute la journée. Alors, le chinuch explique, Kloma, qu'est-ce que ça veut dire tamid ici? La sim et sim baboker ou ben arbaim. C'est-à-dire que le matin et en fin d'après-midi, il faut ajouter du bois sur le foyer pour que ce feu brûle en permanence. Brûle. Ou bebiur amru chazal afalpi she'aesh yored min ha'shamayim mitzvah le'avi min ha'edyot. Bien que le feu en question, ce soit un feu qui vienne du ciel, il y a une mitzvah d'amener du feu ordinaire fait par les hommes. Cette idée d'un feu qui vient du ciel, tout de suite, ça fait penser à Nadav et Abihu, le jour de la. Voilà. Bon, d'accord, on leur a tout dit. Ouais. Bon, c'est bon alors. Elle est là. La prochaine fois qu'elle nous dise qu'elle c'est pas pourri toute l'année, qu'on va changer de nom aussi. Alors, effectivement, on a ce feu, et elle dit que le feu vient du ciel. Alors, je disais, ça fait penser à Nadav et Abihu, les fils d'Aaron, qui eux ont voulu amener uniquement du feu mina idiot, comme on dit, du feu humain, alors qu'Hachem avait décidé que le feu, au moment de l'inauguration du Mishkan, le feu descendrait du ciel. Alors, cette idée que quelque chose a lieu de façon miraculeuse ou naturelle, et qu'il faille néanmoins une action humaine, c'est une chose qu'on retrouve dans une situation de Corban aussi, c'est dans la situation d'un animal qui est un béhor. Un animal qui est béhor, on doit l'amener comme Corban, ça devient un Corban. Et ce Corban, il est dû, évidemment, si vous avez une brebis qui met bas pour la première fois, un animal, mâle, et cet animal devient un béhor. Alors, d'où est-ce qu'il a sa kedusha de béhor? Alors, il faut se souvenir que tous les animaux qu'on apporte comme korban, c'est toujours la résultante d'une kedusha décidée par les hommes. C'est quelqu'un qui est allé dans son étable ou qui est allé acheter un animal et qui a dit, cet animal-là, je vais l'apporter en korban. Ce sera pour le korban khatat que je dois apporter parce que j'ai fait une faute ou un shlamim ou une olam, peu importe. Quel que soit le statut de cet animal. Attendez, voilà, Hélène Bergel. Hein? Bonsoir. Et quel que soit le statut de cet animal et sa kedusha, le fait que ça devienne un korban, puisse devenir un korban, ça a été donné par la parole humaine. C'est le propriétaire de l'animal qui a dit cet animal-là est destiné à devenir un korban. Il y a une exception, c'est justement ce béhor. Lui, sa kedusha, elle vient du fait qu'il est le premier à être né. C'est-à-dire, il est le premier à ouvrir les voies basses de sa mère. C'est ça la kedusha. Et néanmoins, il y a une mitzvah pour le propriétaire de la brebis qui est en train de mettre bas, de se tenir à côté de son animal, de sa brebis, et quand elle met bas, il va dire, cet animal sera un béhor. S'il ne le dit pas, ça n'a aucune importance, il est devenu béhor quand même. D'accord? Puisqu'il est béhor parce qu'il a ouvert les voies basses. Non, il n'y a pas une mitzvah, mais s'il est là, ou quand il voit l'animal, il doit le déclarer comme pour ce feu. Le feu vient du ciel et néanmoins, on va quand même apporter un feu humain qui, d'après ça, ne sert à rien puisque le feu vient du ciel. Et donc, tous les jours, matin et en fin d'après-midi, on doit apporter du bois pour alimenter le feu en question. Alors, comme toujours, le chinour, il parle de Mishorashe HaMitzvah. Quelles sont les racines de cette mitzvah. Alors il fait une hakdama, une introduction, et il dit, Yadua adavar bneinu ve'etzel kol chacham, c'est connu parmi nous et c'est connu de tous les sages, kinisim gdolim asher yaaseh akel el bnei adam betuvo agadol, que les grands miracles qu'Hachem fait aux hommes, il fait gracieusement aux hommes, le olam yaaseh derer seter. Il va le faire ça de façon cachée, de façon non, enfin pas ostensiblement. Vinirim ha'inyanim na'asim k'tzad ki'iluhem darkei ha'teva mamash. De telle sorte que les choses ont l'air de se dérouler de façon naturelle, au karov le teva, ou proche du naturel. Igam benes kriat yamsouf, parce que même dans l'énorme miracle du partage de la mer, au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, shaya nes mefursam, C'était visiblement un est que la mer s'ouvre et que les Bnei Israël passent à pied sec dans la mer. Le passage dit, Vayolich Hashem et Hayam beruach kadim azak kol ha-layla. Le passage dit qu'Hachem a fait souffler un vent très fort, un vent d'est très fort pendant toute la nuit sur la mer. Et donc, les choses se sont faites comme si c'était le vent qui naturellement a fendu la mer. Vayasem et hayam l'cherava vaybaku amaim. De telle sorte que la mer a été fendue, elle a été détruite, quoi, démontée, quoi, si vous voulez, comme on dit. Et donc, les eaux ont été fendues. Yavinu, et les gens qui réfléchissent comprendront qu'Inyan Seterze, le Maalat Ha'adon, Veshiflutam Kabel. Il faudra comprendre que le fait que ce soit caché, c'est à la fois dû à l'élévation d'Hachem et à la petitesse de celui qui bénéficie du miracle en question. Sivanu, l'avir. C'est pour ça qu'Hachem nous a dit que bien que le feu vienne du ciel, il y a une mitzvah d'apporter un feu mina ediot, comme on dit, un feu humain, d'origine humaine. Afalpi, shesham, yored esh mina shamayim, puisque sur le Mizbéach, le ciel, le feu descend du ciel. C'est que dès la siranes, c'est-à-dire c'est pour cacher un peu le nes, pour faire les choses comme si, oui, on a du feu, on amène tous les jours du feu. Le fi a domé, shaesh yoredet, lo aita nirit, biridata minatam, shemarnu, chutz miyom shmini shel miluim. En fait, on n'a pas vu descendre le feu du ciel, sauf le 8e jour de l'inauguration du Mishkan dans l'histoire de Nadav et Abihu. Et à un autre moment, à l'époque de Gidon, ou bien à l'époque de Manoach, le Manoach c'est le mari, enfin, c'est le père de Shimshon, chez Aïta Nirit, à ce moment-là, il y a eu une manifestation d'Hachem sous forme d'un feu qui descendait du ciel. Mais en règle générale, on ne voit pas le feu descendre, il n'y a pas une colonne de feu qui descend, mais il y a un miracle, il y a du feu, et ce feu, il vient du ciel. Là-dessus, le Ravolvé explique, Advarim Mafliim, les choses sont extrêmement étonnantes. Akadosh Baruch Hu olich ruach kadim azak kedei livkoa hayam. Akadosh Baruch Hu a fait souffler un vent intense, un vent d'est étant intense pour fendre la mer. Vegam katav zot b'Torah, et il l'a écrit dans la Torah. Umi peti yuchal lachshov shal yedei ruach azah zot yamdu amayim mishnei hatzdadim kmo chomat. Mais quel idiot va penser que par le seul effet du vent que les eaux vont être des deux côtés, vont être verticales des deux côtés du passage comme des murs de pierre. Personne ne va croire que ça s'est fait vraiment naturellement. Et là, ça s'appelle le hastiranes, c'est-à-dire on va cacher le nes. C'est ce qu'on a dit ici. Akadosh Baruch Hu, il est ce qu'on appelle omen mutzna. Il est un artisan discret. Afilu nisim gluyim hu mechaseh. Oui, il cache d'une certaine manière, pas complètement, mais il cache même les miracles, qui sont des miracles visibles, pas les miracles comme Les miracles de Megillat Esther, qui sont des miracles qui sont cachés complètement, qui ne sont pas vus. On ne voit pas les miracles dans la Megillah. Par exemple, Vasuk Shemen chez Elisha, dans la fiole d'huile d'Elisha avec le miracle. Oubat, il a dit à la femme, souvenez, cette femme qui avait besoin d'argent, et Elisha lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, j'ai un fond d'huile. Alors il lui a dit, emprunte tous les kélim, tous les ustensiles que tu peux, et rassemble-les dans ta cuisine, et tu fermeras la porte derrière toi et derrière ton fils. Et tu commenceras avec le fond d'huile que tu as, tu commenceras à remplir tous les récipients que tu as réussi à récolter. Et donc ce fond d'huile a servi à remplir tous les récipients, une dizaine de récipients qu'elle avait réussi à ramasser. Viatzakt al kol hakelim ala. Mais Amalé, ainsi, Rashi explique, tu fermeras la porte. Pourquoi elle doit fermer la porte? Pour verser l'huile, il faut fermer la porte. Non. Mais Kavod Anes ou Lavo Beatznea. C'est le Kavod du miracle de se produire de façon discrète. Ça veut dire le kavod du miracle. Ça veut dire que le miracle, il ne prend sa vraie dimension que quand il est produit de façon discrète. C'est ça. Vine, imanesatzmo si le miracle lui-même, il vient de façon discrète, alors celui qui bénéficie du nes, lui aussi doit être discret. Et si, ça c'était un miracle complètement visible. N'est-ce pas, quand vous rêvez 3 centimètres, 3 centilitres d'huile et vous remplissez 15 litres, d'accord? A priori, ça fait partie d'un miracle visible. Même pour un miracle visible comme ça, il faut être discret. C'est pour ça qu'il lui a dit, ferme la porte. Alors, Benes Nistar, alachat kama vekama. Quand le Nes est un Nes qui doit rester, qui est caché du point de vue de celui qui le produit, loyafrin. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas sanoua, si quelqu'un n'a pas cette discrétion, il va rien voir du tout. Il verra même pas qu'il y a un S. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le mérite de voir qu'il a un S. Alors maintenant, ça. Qu'est-ce qui se passe le tzibour? Maintenant, ce qui se passe avec le feu sur le misbéar, c'est une opération qui concerne le tzibour, qui concerne la collectivité. Avana c'est comme ça. Les gens, le tzibour, il a une compréhension, une interprétation de la notion de tsniout, de discrétion, de réserve, de discrétion, très très superficielle. Rien tsniout chez nous mais d'abri maléakan. La discrétion dont on parle ici, il y a derer chez le binyan olam pnimi ba'adam. C'est la façon qu'il y a de construire un monde intérieur chez l'homme. C'est marqué dans Michelet, C'est marqué Vet Tznuim Chochma. Avec ceux qui sont discrets, il y a de la Chochma. Rabbeinu Yonah, dans son commentaire sur Michelet, ce que j'ai cité, c'est un passouk dans Michelet, il écrit Vatsniut Goremet Chochma le Baaleha. La discrétion, elle va générer de la sagesse chez celui qui bénéficie, celui qui a cette tzniut. Kihi midata, parce que c'est la mesure, c'est-à-dire c'est la caractéristique des sages. Asher bai kanu et hachamim. Quoi? Moi, j'ai fermé ma caméra. Oh là là. En plus, c'est vrai. Voilà. Alors, c'est une mesure, c'est une caractéristique des Chachamim que cette tzniout, en fait, qui yishmeu v'yakshivu v'lo etavu leitgalot libam. Ils vont écouter, ils vont être attentifs et ils vont pas avoir envie de dévoiler les choses. Celui qui est tsanoua, celui qui est discret, réservé, il porte en lui, et il le garde bien en lui, son monde intérieur. Il n'a aucune tendance, aucune envie de dévoiler quoi que ce soit de son monde intérieur quand ce n'est pas absolument nécessaire. Baiser, cette manière-là, mitvasef la adam, memad chadash bekirbo. Alors, de cette manière-là, l'homme acquiert une dimension supplémentaire qui est très riche. D'accord? C'est une. Avec un contenu, cette dimension supplémentaire qui a un contenu très très riche et qu'il garde précieusement pour lui. Zehu olamo shel ha-tamid chacham. Et ça, c'est son monde intérieur qui te demande, c'est pas, tu ne vas pas aider les autres. Ton monde, on a dit que si vraiment c'était nécessaire pour vraiment aider les autres, alors on le ferait. Ou Asher Amrou, c'est ce que Chazal ont dit dans la Maseret Sanhedrin. Ils ont dit chez Kol HaNeviim, tous les prophètes, Lo nitnavu ela la dvekim betalmidei chachamim, aval talmidei chachamim atzman ain lo ra'ata. C'est-à-dire, quand les Neviim annoncent le bien que vont vivre ceux qui sont. Ben, on a l'impression qu'ils parlent pour les gens qui se conduisent bien, pour les Talmid Chachamim. Mais la Gemara, elle dit en vérité, ce qu'ils disent, ce qu'on en sait, donc, ça concerne seulement ceux qui sont très proches des Talmid Chachamim. Ils sont dans le voisinage des Talmid Chachamim. Mais la récompense, ce à quoi accèdent vraiment les Talmidei Chachamim, personne n'en sait rien du tout. Les prophètes ne sont pas à la hauteur de pouvoir en parler. Ce dont ils parlent, dont on apprécie, même si on pense qu'ils ne parlent qu'à des gens qui sont hauts, ils sont seulement proches, ils sont dvekim, dvukim, aux Talmidei Chachamim, mais pas, ils ne parlent pas du tout pour les Talmidei Chachamim eux-mêmes. Parce que Ain Lorata, le salaire, le niveau qu'atteignent ultimement les Talmidei Chachamim, leur récompense dans le monde à venir, etc., tout ça, les prophètes n'en savent rien, ils ne peuvent pas en parler. Ain Lorata Elokim Zulatera. Aucun œil humain ne l'a jamais vu, il n'y a que Hachem qui le connaît. Ou qui a doua, asrar, mégalé tamaout. On sait bien que quand on nous dit quel est le salaire de cette conduite-là, le salaire nous révèle quelle était la qualité de ce qui a été fait pour mériter ce salaire. C'est-à-dire, on n'a pas un salaire qui est sans commune mesure, qui ne nous permet pas d'inférer sur quoi vient ce salaire. Le salaire, il est en relation avec ce qu'on a, si vous voulez, le salaire d'un travailleur, il ne nous permet pas de savoir quel travail la personne a fait. Si les choses sont justes, alors on peut savoir quelle est l'importance du travail qui a été produit en fonction du montant du salaire, par exemple. Mais on peut avoir deux personnes, un qui travaille, un agriculteur et un informaticien, qui ont le même salaire, mais on ne voit pas dans leur salaire qu'ils aient, ni que celui-là il est informaticien, ni que celui-là est agriculteur. On voit simplement qu'ils ont atteint un degré de capacité, enfin de travail, d'efficacité ou quoi que ce soit, qui mérite ce genre de salaire. Mais ça ne nous permet pas d'inférer qu'est-ce qui a vraiment été fait pour mériter ce salaire. Par conséquent, la maout du Talmid Racham, elle a à voir avec le fait que, puisque son salaire, sa récompense, si vous voulez, elle est Aïn Loraata Elokim Zulatera, c'est quelque chose que seul Elohim connaît, personne, aucun œil ne l'a jamais vu. Ça veut dire que le Talmid Racham bana bekirbo olam sanoa. Il a construit en lui un monde intérieur extrêmement discret, puisque le salaire est discret. Mise ou bas le Mabat Pnimi, Veder Chaim Shel Pnimiut. Et à partir de ce monde discret qu'il a construit, ça lui permet d'avoir un regard intérieur, en fait, et une façon d'appréhender la vie qui est empreinte d'intériorité. C'est pas. On n'est pas dans la superficialité, on est dans la profondeur. Michelet, ça a été écrit par Shlomo HaMelech, vous savez. Donc, quand Shlomo HaMelech a écrit Ve'et Tznuim Chokma, ce que Rabbeinu Yonah avait expliqué comme étant voulant dire que la Tzniout, elle génère la sagesse, elle produit de la sagesse. C'est clair que sa kavana, la kavana de Shlomo HaMelech quand il a écrit ça, oui, la kavana de Shlomo HaMelech quand il a écrit ça, hein, c'était la chokhmah pnimit. Vet tznuim chokhmah, c'est chokhmah pnimit. Pas une chokhmah superficielle, c'est pas. C'est-à-dire, l'irotadvarim be'omkam. Qu'est-ce que c'est une chokhmah pnimit? C'est une capacité de voir et d'analyser les choses en profondeur, de voir ce que sont les choses véritablement. Istakel mibad la tofaot. C'est-à-dire de dépasser le côté événement. Rak b'mabat zeh yecholim la'afrin et darkei hashgacha mistatrim me'achorei ha'tofa'a atzma. Ce n'est que de cette manière-là qu'on peut comprendre quelle degré, si vous voulez, de Hashgaha, il y a dans chaque événement. Rien de ce qui se passe dans le monde ne se passe sans qu'Hachem s'en occupe. Pour arriver à voir comment Hachem s'occupe, dans quelle mesure il s'occupe, qu'est-ce qu'il veut de ce qui se passe, de l'événement, il faut ce regard-là. Il faut cette chokhma qui vient d'un monde intérieur. Si on n'a pas un monde intérieur, alors il est exclu qu'on puisse regarder les choses en profondeur, comprendre vraiment quelle Hashgacha est à l'œuvre dans chaque événement. Aria Kadosh Baruch Hu Yoshev Beseter Elyon. Hachem est très très haut, complètement caché. Betzel Shakai Tonan. Le Shakai, c'est un des noms divins. Il réside, si vous voulez, dans l'ombre. Il est caché. Donc ça, c'est ce que Ravolvé a entendu, si vous voulez, dans ce verset qui nous parle du feu qui doit brûler en permanence sur le Mizbéach. Oui. Alors, en fait, on va voir que il y a des nissim où il y a une mitzvah de raconter jeunesse. On va voir quelque chose qui touche à ce sujet-là. Il y a un peu plus bas, on va parler du Korban Toda. Ça, c'est au chapitre 7. Oui. Peut-être on peut commencer à lire la troisième paracha. 7, 11. Zot Torah, Zevach HaShlamim. Ceci est la Torah, donc l'enseignement, détail, de Zevach HaShlamim, c'est-à-dire des korbanot dont on fait la shrita, pour en faire un korban shlamim. Dans shlamim, vous entendez shalom, vous entendez le paix. Certains traduisent le korbanot d'apaisement ou bien de complétude, enfin de arriver à une shlemout, certaines manières. Asher yakriv l'Hashem. Quand quelqu'un veut apporter zemar shlamim, alors, il y a plusieurs shlamim, plusieurs cas de figure où on amène un korban shlamim. Un korban shlamim, il a une qualité particulière qui est que c'est un korban où tout le monde est content, si on peut parler comme ça, parce que dans ce korban, il y a une partie qui va sur l'autel, il y a une partie qui est mangée par les kohanim, et une troisième partie qui est mangée par les propriétaires. Donc tout le monde est content. Celui qui a apporté le korban, le Cohen qui a fait le job, et le Mizbéach a reçu sa part. Si vous voulez, il y a un shalom qui s'établit dans le déroulement, dans la pratique du korban. Alors, im al toda yakriven. Si ce shlamim, il est approché comme korban, il est approché au titre d'un korban toda. Toda, ça veut dire remerciement. C'est l'expression de sa reconnaissance. D'accord? Alors, veikriv al zevach toda. Alors, on sait qu'en plus de la viande Corban Toda, dont on a fait la shrita, on doit apporter en même temps Chalot, Matzot, Bloulot Bashemen. On doit apporter des Matzot, Chalot, des pains, qui sont Matzot, c'est-à-dire qui sont sans levain, Matzot, Beloulot Bashemen, comment on dit ça? Elles sont pétries dans l'huile, à part de l'huile, ou rekiké matzot meshuchim bashemen. Et c'est aussi des rekikim, c'est aussi d'autres, c'est des formes particulières, qui sont aussi matzot, et qui sont meshuchim, qui sont ointes, ça veut dire, vous avez fait la pâte, et puis après, on peint de l'huile dessus. Ouais. Le solet, bourbechet, chalot, bloulot, bachemen, c'est aussi de nouveau une autre façon de utiliser la farine. En fait, c'est aussi baloul, aussi pain pétri dans l'huile. On apporte ça et on apporte aussi al chalot lechem chametz, yakriv korbano. On amène aussi des chalotes qui sont chametz. Tout ça, on amènera, et c'est répété, al zevar todat shlamav. On va amener ces pains-là, ces pains chametz, on va les amener sur le korban, sur le zevar todat shlamav, sur l'animal shrouté, donc sur la viande, si vous voulez, du korban shlamim. Ces chalotes-là qui sont moitié matzot et moitié chametz, c'est le seul korban privé, éventuellement, qu'on amène où il y a du chametz. Tout le reste du temps, on n'avait que des matzot au Beth Amikdash. Il y a un korban tzibour, un korban qui est apporté au nom de la collectivité. À Shavuot, on apportait des kvassim, on apportait des agneaux, des cabris. Et on apportait en même temps aussi du chametz. Donc il y a deux occasions, une occasion collective, Shavuot, le korban de la fête de Shavuot, c'est un korban qui contient du chametz. Et dans le shlamim, quand quelqu'un apporte un korban toda, dans le toda, il y a des matzot et il y a du chametz. Alors, cette histoire du chametz, en fait, le mec d'Avar, il explique oui, alors il explique pourquoi du chametz. Alors il dit comme ça. Mashmaout HaMikra, du verset qu'on a lu là ensemble, il semble que Tachlit HaKorban, le but, l'essentiel du korban en question, il y a beaucoup de choses dans ce korban. Il y a de la viande, il y a des matzot, et il y a du chametz. Alors il dit, l'essentiel du korban, c'est Chalot Lechem Chametz. L'essentiel dans ce korban Toda, c'est le chametz. Ou mishum ze me farech od amikra al zevar todat shlamav. Et c'est pour ça que le verset, à la fin du verset, à la fin du verset 13, la dernière chose que nous ayons lue, on a répété zevar todat shlamav. Alors que c'est comme ça qu'on l'a introduit. Zot Torah Zevar HaShlamim. Pourquoi on l'a répété? On l'a compris. Pourquoi on l'a répété? On l'a répété pour le juxtaposer avec le lechem, chametz, pour bien montrer que l'essentiel dans ce korban, c'est le chametz. Mishumachi, lechem chametz, ou ikar. Alors maintenant, pourquoi dans ce korban, le chametz est-il l'essentiel? Mishum Shehu Zevach Toda Shlamav. Alors, pourquoi est-ce que il est essentiel, si vous voulez? C'est parce que Tachlit Toda, le but du Korban Toda, Sheba Alnes. Un korban toda, qui est-ce qui apporte un korban toda? Celui qui apporte un korban toda, c'est par exemple quelqu'un qui a fait un voyage sur mer et qui a survécu, c'est-à-dire voyager sur mer, c'était surtout à l'époque, c'était dangereux, très dangereux. Et celui qui avait réussi, c'était, voilà, c'est une espèce de miracle. Ou bien il était prisonnier dans des prisons dont, vous imaginez, il y a des endroits où les prisons, c'est des endroits où vous avez toute chance de finir votre vie au fond de la prison. Lui, il est sorti de prison. Alors, il apporte un korban toda. Il y a quelques cas de figure de ce genre-là. Vous voyez, il y a eu une espèce de miracle qui a fait que il s'en est sorti. Et donc, il va remercier Hachem de s'en être sorti. Alors, le Corban, il vient essentiellement à la Nes, ou kede le saper chasde Hachem chez Gamal. Le but du Corban Toda, c'est le récit du miracle qu'on va faire quand on va manger ce corban. Il y a un récit du miracle. De façon générale, ça reste, même si aujourd'hui on n'apporte plus obligatoirement un corban puisqu'on n'apporte pas de corbanote, mais l'obligation de raconter un nes, elle est toujours là. On raconte que le Rav de Brisk, c'est qu'on a eu raconter les miracles, je pense, j'imagine, c'est comment il a été sauvé pendant la guerre. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait le voir, il dit, il faut que je te raconte mon S. Et ses fils, qui l'avaient déjà entendu 25 fois leur père raconter, parce que c'était quelqu'un qui recevait beaucoup de visites, et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, il lui racontait le S, parce qu'il pensait que c'était une mitzvah de raconter le S. Les fils, ils en avaient jusque-là, ils connaissaient le récit à l'envers et à l'endroit. Mitamze, alors pour cette raison-là, parce que c'est fait pour être raconté, Riba katouv belechem umiyet bizman achilat toda mikol shlamim. C'est-à-dire, pour cette raison-là, la Torah, elle a indiqué qu'il fallait apporter beaucoup de pain, et c'est 40 pains, donc il y a beaucoup à manger, et il faut le manger relativement vite, plus vite que d'autres shlamim. S'il y a des korbanot où on a pour les manger, comme vous savez, je répète, que ce soit bien clair, la caractéristique d'un korban, c'est de devoir être mangé dans un laps de temps donné et dans un lieu donné et par des gens donnés, c'est-à-dire. Alors, les gens donnés, ça peut être dans certains korbanot seulement les kohanim. Par exemple, si on apporte un korban khatat, la viande elle est entièrement mangée par les kohanim. Si on apporte un shlamim, comme je vous ai dit, dans un korban que quelqu'un apporte volontairement, de cette manière-là, il y a une part qui est donnée au Kohanim, Razé et le reste de la viande, elle est mangée par les propriétaires. Sur le Mizbéach, on met une partie des entrailles et on a quelque chose qui va brûler là. Et donc, alors, le laps de temps, des fois c'est un jour et une nuit, et des fois c'est 2 jours et une nuit. Un jour, une nuit, un jour. Et ici, c'est la version courte. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que Kedé Sheyehu Sheyeh Marbe Reim le Souda Achat Beyom Akrava. On veut que il y ait beaucoup de convives le jour où on approche le Corban. Pourquoi il faudra beaucoup de convives? Parce qu'il faut manger tout ça. Alors oui, il y a encore une halakha qu'il faut savoir, c'est que quand on a un korban, quand on dit qu'il faut le manger dans un laps de temps et dans un lieu bien précis, il faut le manger complètement. Et si jamais il en reste, alors ça devient notar, et c'est très embêtant, il faut le brûler parce que si jamais quelqu'un venait à manger le reste du korban en dehors du temps précis, il est chayav karet, c'est très grave. Donc, pour être sûr qu'il y aura beaucoup de monde, on a donné beaucoup de choses à manger, il y a beaucoup de pain. Et il faut le manger. Et on peut pas on aurait une solution qui est d'inviter un tas de petits groupes de gens. D'accord? J'ai du pain à manger. Avec un peu de viande. Alors, on invite un petit groupe, un petit groupe, un petit groupe. Non, on voulait, la Torah veut qu'il y ait beaucoup de monde, un seul repas, le jour même où on approche le Corban. Il n'y a pas un jour supplémentaire derrière. Et donc, tout le monde va être là. Il y aura beaucoup de monde. Et donc, si pour Anes, l'ifnei rov anashim. Il va donc y avoir le récit du miracle devant un grand nombre de gens. Ve'arba chalot la kohanim shehen ema talmidei chachamim v'imken ha'ikar achila ou lechem chametz. Et les chalot, elles vont être mangées par les kohanim. Arba chalot, 4 chalot vont être mangées par les kohanim, pardon. Dans les 40, là. Et alors, le Aïkar Achila, c'est le Hametz. Le Hametz, c'est plus important, c'est vraiment ça, l'Achila. Il dit parce que la Matzah, qui est l'Echemoni, comme on sait du Pessah, c'est un pain pauvre, pas seulement le pain du pauvre, mais c'est un pain pauvre. Pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas de sucre et pas de sel. Et ça ne se mange pas bien. Comme au Hametz, pas aussi bien que le Hametz. La Gemara, elle le dit dans Zvachim, qu'effectivement, les matzot, ça ne se mange pas très bien. Et ça ne se mange pas très bien, ça veut surtout dire que, à la fois, ça ne tient pas vraiment, que c'est difficile à digérer puisque ce n'est pas fermenté. Donc, voilà. Et il vaut mieux manger du pain que de manger des matzot. Maintenant, on a mangé quand même des matzot à Pessah. Hein, c'est le matzah ou l'hégémonie, donc Ve'eno nechal yafé comme au Chametz. Ve'aynu de mesayem ta'am, c'est pour ça qu'on explique finalement chez l'hégém Chametz, Ikar, Mishum Shehu Zevach Toda Shlamav. Parce que c'est lui le korban. Il va avec l'animal qui a été shkouté, qu'on a avec la viande de l'animal dont on a fait la shkita. Toda, Al Shlomo, Bemashenechlatz Mitzara. Bon, c'est l'expression de sa reconnaissance pour le fait qu'il a été sauvé de la Tsara dans laquelle il était, c'est-à-dire un risque de noyade, un risque d'être attaqué par des brigands, d'être tué dans la prison, etc. Umishum achi nakte chazal, belashon ha Mishnah, halot toda urkike nazir. Velot nan kmo ken rekike toda, kmo rekike nazir, אלא משום שעיקר תכלית התודה המה אכלות חמץ ומצה שנדרשים לאוכלין הרבה, ודונק לרקיקים, זה פאט טרז אמפורטן, וכאנטון ופרלי דרקיקים דן המשנה, אונסית פא לרקיקים דה לתודה, אונסית לרקיקים לקורבן דה נזיר, ונזיר לולא אוסי אפורטי לרקיקים, כאו? Mais on ne cite pas ceux-là parce qu'ils sont complètement éclipsés par le chametz qu'on mange en même temps, comme on mange le chametz. Donc quand on entend shlamim, même s'il y a des matzot et des rkikim, etc., on entend chametz, parce que c'est ça l'essentiel. Donc ça, c'est Rokikin, comment est-ce qu'il dit Rashi? Non, 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 c'est. Il lui traduit. Nicolas, il traduit. Ispugin, la tirine. Je sais pas, vous n'avez pas. Quelqu'un a pas. Personne n'a le stone là? Comment ils traduisent? C'est le verset. Verset 12, non, verset 13, probablement.
En yiddish, ils traduisent dinematzes.
Oui, mais. Non, comment ils traduisent? Vous l'avez, verset 13, ou verset. Non, non, 12, pardon.
Galette, il traduit galette.
Galette, ouais. C'est pas mouillé, quoi. C'est des galettes.
Manger galette.
C'est un truc fin, quoi. C'est pas ça. Hametz, c'est seulement les chalotes. Ah, des morceaux, c'est fait comme tel. C'est pas des matzahs qu'on a cassés. C'est pas des matzahs qu'on a cassés. C'était fait comme des petites galettes. Galettes marocaines, tunisiennes, comme vous voulez. Donc, vu que c'est tout ça, ça baigne dans l'huile. Alors, c'est plutôt tunisien. Enfin, bon. C'est pas que les Marocains mettent pas d'huile, mais hein? Vas-y, ouais, bah, c'est les matzot, évidemment. Ça peut pas. Je vous ai dit, tout est toujours matzot. Tout ce qu'on fait, tout ce qui était fait avec la farine, c'est toujours des matzot, sauf les chalot chametz qui sont dites ici explicitement et les shtei alechem, les deux pains qu'on amène à Shavuot. Sinon, c'est toujours, il va sans dire que c'est toujours azim. Alors, ce qui est spécifique ici dans cette paracha de Tzav, ici, encore une fois, c'est à plusieurs reprises, comme je vous l'ai dit, il y a une introduction, Zot, Torah Ta'a, Torah Tashlamim, Torah Tachata, Torah Ta'a, enfin, ou Torah Ta'ola. Qu'est-ce que ça veut dire, cette introduction de Torah Ta'ola? C'est que, d'ordinaire, si vous voulez, la sagesse, toujours concis, la sagesse dans la Torah, elle a ceci de particulier qu'elle s'occupe des détails. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, c'est beaucoup décomposer chaque mitzvah en une myriade de halakhot pratiques et de midot. C'est ça l'étude de la Torah. Et Chazal disent que la Torah, elle est mateshet, elle affaiblit celui qui l'étudie. Pourquoi elle est affaiblie en quelque sorte? Parce que justement, c'est justement ce travail d'étude des détails, cette décomposition, d'entrer dans les détails, etc. C'est ça qui affaiblit, si on peut parler comme ça. Et Rabbi Israël Salanter disait que c'est ça justement, c'est ce travail de la Torah consiste à décomposer les choses qui se fait aussi au niveau du Yetzer Hara, faire exploser quasiment le Yetzer Hara en petites épreuves, en petites particules, en fait. Dans le Tzav, la Torah va décrire les korbanot en grand détail avec cette préface, comme je vous ai dit, Zot à Torah. Zot Torah ta, etc. C'est une chose. Ensuite, le fait que, même par exemple, quand la Torah, elle a parlé, au tout début, on a parlé du feu. Alors, si la question, c'est qu'est-ce que c'est? On présente quelque chose. On va demander qu'est-ce que c'est? La Torah, elle ne répond pas à la question qu'est-ce que c'est? La Torah, elle nous dit en quoi est-ce que ça me concerne? À la question, par exemple, qu'est-ce que c'est le feu? Alors, un scientifique, il va répondre comment le feu commence, quel combustible, quelle température, quelle couleur, etc. La Torah, elle ne nous parle pas de ça. La Torah, elle dit quelle relation est-ce que nous avons avec le feu? Le feu, c'est une des quatre causes de dommages. Il y a une Gemara qui est consacrée aux dommages, qui parle des dommages. Il y a quatre types de dommages, et un type de dommage, c'est les dommages causés par le feu. Donc, la Torah, quand elle nous parle du feu, elle en parle en disant que c'est une cause de dommage. Et puis ensuite, elle nous parle du feu qui ne doit pas s'éteindre, dont on vient de parler. Sur le Mizbéach. C'est-à-dire, c'est les relations qu'on a, nous, avec le feu. Et pas. Donc, la question, c'est en quoi ça me concerne? C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec cette chose-là? Et la vérité, c'est que ce type de question-là, dans la Torah, c'est aussi comme ça que la Torah, elle nous parle. D'Hachem. La Torah ne nous dit pas qui est Hachem, si on parle comme ça. Mais elle nous parle de quelle relation est-ce que nous entretenons avec lui, ou lui avec nous, donc. Elle nous dit, par exemple, il y a des situations quand les Bnei Israël, comme Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, si les Bnei Israël fautent, alors Hachem montre, il se remplit, il s'est mis un talit, Et dit, si les Bnei Israël récitent les Shlosh Esrei Midot de Rachamim, les Bnei Israël récitent ce texte, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, V'Chanun, etc., Hachem pardonnera. C'est-à-dire que ces 13, c'est pas, on n'est pas en train d'énumérer des attributs d'Hachem. Il s'agit simplement, on le voit par exemple dans Tomer Dvora, etc., où ces choses-là sont des choses qui sont dites comme anagot, comme façon de conduire le monde d'Hachem, que nous sommes invités à imiter. Nous aussi, tout ce qui est dit sur Hachem ici, c'est, enfin, qu'est-ce que ça dit d'Hachem? On ne sait pas, c'est pas la théologie, c'est une façon de dire comment Hachem gouverne le monde. Et nous devons être en phase avec cela et essayer d'imiter dans notre conduite, le conduite par rapport à Hachem, le conduite par rapport aux autres êtres humains, mais par rapport au reste du monde d'ailleurs, pas seulement aux humains, les humains. Il faut imiter ces 13 situations, en fait. Et le Maharal, il dit que le mot Torah a la même racine que Hora'a. Hora'a, c'est l'instruction, en fait. C'est comment se situer par rapport à la création. Mais en fait, la Torah, elle dit bien plus. Elle dit que quand que l'homme, grâce à la Torah, il va pouvoir grandir et ça va le mettre au-dessus de tout. Il va pouvoir effectivement diriger, utiliser tout le monde pour mettre tout ça au service d'Hachem. Ça, c'est le La caractéristique de la Torah comme étant une chokhmah d'un genre un peu différent de la chokhmah en général. Souvent, la chokhmah, elle s'occupe justement de dire plutôt des grandes choses. La sagesse de la chokhmah, c'est de s'occuper des détails. Oui. Oui, c'est pas obligatoirement un mode de compréhension. Parce que c'est une anaga d'Hachem, donc il n'y a pas à comprendre, on sait. Ça veut dire Hachem gouverne le monde de cette manière-là. Et le fait que lui gouverne le monde de cette manière-là et que Hachem veut que nous soyons ses associés, ça veut dire qu'il veut que nous aussi, nous gouvernions notre monde de cette manière-là. C'est-à-dire que nous nous inspirions de ces 13 midot de Rachamim. Dans nos relations, dans les relations verticales avec Hachem ou dans les relations horizontales avec, avec les autres créatures. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est une façon d'être à l'image d'Hachem. C'est-à-dire d'être ce qu'Hachem a voulu que nous soyons. On n'est pas à l'image d'Hachem. On doit devenir à l'image d'Hachem. C'est ça. C'est-à-dire que le miracle en tant que tel, il n'a pas à être dit, sauf de l'utiliser, enfin, d'en dire quelque chose pour exprimer ma reconnaissance. Et à ce moment-là, pour m'exprimer ma reconnaissance, ça, il faut mettre en avant ce dont j'ai bénéficié, de pourquoi tu es reconnaissant, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, on a vu. Quand ce n'est pas nécessaire, on n'a rien à, on n'a pas à mettre sur le devant de la scène notre monde intérieur. C'est pas, ça concerne personne. C'est, par définition, c'est un monde intérieur destiné à le rester. Ce monde intérieur, il va me permettre de regarder le monde d'une certaine manière. Il va me permettre, justement, de voir vraiment comment HM agit dans le monde. C'est-à-dire que dans mon analyse de la situation, si c'est en fonction de ce que je suis, ce que j'ai en moi, que je vais pouvoir décrypter en quelque sorte la situation qui est devant moi et voir ce qui se joue et pas rester à la surface des choses. Oui, ça c'est, ça relève de ceci ou de cela, comme les gens disent très superficiellement. D'accord? Mais savoir qu'est-ce qui se joue vraiment. Par exemple, on dit que Ezeu Raham Aroet Anolad. C'est quelqu'un qui voit quand quelque chose et vient de naître, il voit déjà toute l'évolution possible de cette chose-là. Ça dépend de ce qu'il a en lui. Pas le... Quand quelque chose vient de naître, a priori, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Celui qui a de l'expérience, celui qui a de la chokhma vraiment, derrière, bon, lui va comprendre ce qu'il y a à comprendre dans cette situation-là. Ce qu'Hachem, le message qu'Hachem envoie. Parce que souvent, on ne sait pas lire le message. Des fois, on ne veut pas le lire. Ce qu'on dit de façon très traditionnelle, c'est que souvent, quand quelqu'un demande quelque chose à Hachem et il dit, oh, mais Hachem n'a pas répondu, j'ai demandé. Il y a beaucoup de grands maîtres qui ont dit, il a répondu, il a répondu non, je veux pas ce que tu as demandé, c'est non. Et c'est pas, il n'a pas répondu, il a répondu non. Mais comme on n'a pas envie d'entendre qu'il a répondu non, alors on dit, il n'a pas répondu. Comme s'il allait répondre plus tard, peut-être, et ça me laisse la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire. Ça, j'ai. Mais coincé. Non, il a dit non. Voilà, on va s'arrêter là.